qu'il aime bien.
Si, c'est
un pays déjà.
Ah oui, ça a l'air.
Je comprends pourquoi le président veut rester longtemps. Donc, je me présente, je m'appelle Didier Fuin, et pas Fuin, mais Fuin, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je ne vous en tiens pas du tout rigueur. J'habite dans la région, j'habite près de Grenoble, je suis père de Marie et Janine, et j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants, mais je suis originaire de Franche-Comté. Je suis originaire donc de la région de Morteau, Villers-le-Lac, je suis moi-même de Villers-le-Lac, mon épouse est de Morteau. Et bien entendu, j'étais à l'école à Besançon, comme c'était le cas ici. Mais j'ai quitté la Franche-Comté depuis bien longtemps, je vous l'avoue, parce que j'aime beaucoup les montagnes alpines. Voilà, en tous les cas, pourquoi je suis là d'abord? Parce que hier, on a fait ce qu'on appelle une évaluation, entre guillemets, une auto-évaluation. L'Église s'évalue à partir de critères. Et puis je me demande, du coup, quand on a fait cette évaluation, si c'est nécessaire que je prêche ce matin sur le thème des disciples qui font des disciples, parce que finalement j'ai compris que vous êtes des disciples et que vous faites des disciples. Alors je me dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, alors je me suis dit, j'ai dit à Elisabeth, écoute, moi je repars. Elle me dit, non, tu restes là quand même, on va quand même t'écouter. Bon, merci de m'écouter.
De toute façon, on a payé.
C'est payé très cher. Ensuite, je vais vous dire, donc, quand je suis arrivé, donc, Cyril m'a dit, mais t'as de plus en plus de cheveux blancs. Alors je dis, effectivement, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, mais vous verrez dans la prédication, j'ai aussi tendance à rabâcher. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, nous allons étudier un texte bien connu, que vous connaissez tous, Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vous referai juste le contexte. La scène qui concerne ce texte de Matthieu, la fin de Matthieu, se situe après la résurrection de Jésus, alors que tout espoir était perdu, on essaie de se mettre à la place de ses disciples, tout espoir était perdu. Des femmes ont rencontré Jésus-Christ ressuscité à proximité du tombeau. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, et c'est ce que nous venons de célébrer par la Sainte Cène. Alors Jésus, par l'intermédiaire de ses femmes, convoque les 11 disciples en Galilée pour leur confier une mission qui va bouleverser l'humanité. Alors, c'est la deuxième... Donc, je vais lire la version Semeur, en attendant qu'elle soit sur l'écran. C'est les versets 18 à 20 de Matthieu 28. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir, donc c'est la prochaine, ça marche pas. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible, alors c'est la prochaine, la Bible interlinéaire français-grec traduit les versets 19-20 par, alors c'est pas très bon en français, mais voilà comme il est traduit, « Allant, donc faites des disciples toutes les nations, baptisant eux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignant eux tout ce que je commandais à vous. » Alors, ce n'est pas du très beau français, mais ce qu'on voit à travers ce texte, c'est que faire des disciples constitue l'idée centrale de ce texte, tandis que les autres termes, aller, baptiser et enseigner, lui sont subordonnés sous forme de participes, pour ceux qui se rappellent encore ce qu'est la grammaire. Mais est-ce que cette mission de faire des disciples, finalement, nous concerne encore aujourd'hui? Sa dimension universelle, tous les peuples. Sa durée, puisqu'implicitement jusqu'à la fin du monde, montre à l'évidence que cette mission s'adresse à toutes les communautés de croyants que Matthieu appelait déjà l'Église. Prochaine. Donc des disciples qui font des disciples, des églises qui font des églises, c'est la devise de notre union d'églises perspective. Je vous propose donc comme idée centrale ce matin, l'Église existe pour faire des disciples. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? C'est l'idée qu'il faut retenir. S'il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est que l'Église existe pour faire des disciples. Elle n'existe pas uniquement pour notre accomplissement personnel, mais pour faire des disciples. Et on va voir ça en quatre points qui nous sont un peu dictés par le texte qu'on a étudié. Qu'est-ce qu'un disciple ? Aller, baptiser et enseigner. Mais bien sûr, je vais juste survoler ces quatre points parce qu'en réalité, il faudrait presque une prédication pour chaque thème. Hein, je crois, il me semble, hein, mais peut-être même plusieurs. Puisque faire des disciples est central, commençons par nous poser la question, mais qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Alors, on regarde les 11 disciples de Jésus, puisqu'il y en avait 11 hein, à la fin. Je vous rappelle que le 12e, il est un peu planté. Hein, bon. Les 11 disciples de Jésus sont à la base des hommes ordinaires. Et c'est ce qu'il faut, enfin, hommes, quand je dis disciples, aujourd'hui on parle des disciples de Jésus, mais ça concerne aussi les femmes, bien sûr. Hein. Les 11 disciples de Jésus, il faut s'en rappeler, sont à la base des hommes ordinaires. De toute classe sociale, avec leurs failles, leurs faiblesses, comme nous. Ce ne sont pas des héros, comme le dit la chanson. Parmi eux figurait un impulsif. Qui ? Pierre. Deux colériques et ambitieux. De qui s'agit-il ?
Jacques et Jean.
Il est à la fois colérique et en plus il voulait être à la droite de Jésus. Et un collabo, un péager à l'époque, collabo parce qu'il était au service des Romains, un collabo cupide qui n'est autre que Matthieu, l'auteur de cet évangile. On trouve aussi des anonymes, du moins pour nous, comme Thaddée ou Barthélemy, dont nous n'entendons plus parler dans le Nouveau Testament. Des hommes qui, par peur de subir le même sort que leur maître, l'ont tous lâchement abandonné au pire moment, avant de sombrer dans la dépression, le désespoir. Est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas un peu, ces disciples, hein ? Et ça nous rassure quelque part. Ce ne sont pas des héros, ce sont des hommes ordinaires. Pourtant, ces hommes ordinaires ont révolutionné le monde parce qu'ils sont devenus disciples de Jésus. Mais revenons à notre question, qu'est-ce qu'un disciple ? Prochaine, voilà. Qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple de Jésus a une relation personnelle avec son maître. Un disciple de Jésus a une relation personnelle avec son maître, sans laquelle il ne peut pas être un disciple. Ça, c'est très important. Alors, comment établir cette relation ? Ben, au minimum, vous le savez déjà, par la prière sous toutes ses formes. On peut dire louange, reconnaissance, prière de pardon, prière de supplication, etc. Peu importe. Par l'étude, la méditation de la Bible sous toutes ses formes, simple lecture, ça peut être une lecture priée, ça peut être... Bon, il y a plein de formes. Mais c'est les deux éléments essentiels, la prière et la parole, qui vont nous aider à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et il y a d'autres moyens, mais je n'en parle pas là. Cette relation intime avec Dieu amène le disciple à une transformation progressive de son comportement, de son caractère, de ses raisonnements, de ses valeurs, de ses croyances, de ses pensées et de sa volonté, n'est-ce pas ? Pour les plus anciens d'entre nous, on l'a vraiment vécu. Il nous transforme progressivement. Le disciple s'efforce dans toute sa vie à mettre l'enseignement du maître en pratique avec comme but ultime, lui ressembler. Moi j'aime beaucoup ce chant, te ressembler Jésus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si bien que le disciple devient capable, alors j'ai pris un autre passage plutôt des évangiles, mais ça rejoint ce que Alain avait pris, d'aimer le Seigneur son Dieu. Le disciple devient progressivement capable d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme lui-même. Et ce simple verset résume toute la loi, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, finalement, qu'est-ce qu'un disciple ? Si on veut retenir une seule idée, un disciple, c'est un croyant ordinaire qui recherche à ressembler à Jésus. Facile, non ? Non. Pas facile. Passons au deuxième point. Allez. Bien, la première étape pour faire des disciples consiste à aller vers ceux qui ne sont pas encore disciples. Aller pour faire connaître le Christ à nos contemporains. Aller pour leur dire que l'Évangile donne à ceux qui ont perdu tout espoir une espérance qui correspond au désir profond de chaque être humain, c'est-à-dire vivre éternellement avec Dieu. Aller pour leur dire que le Christ peut seul réconcilier les hommes avec Dieu, mais aussi les réconcilier entre eux. Aller faire découvrir Christ à cette société fracturée, en colère, n'est-ce pas, une société très fracturée et en colère, qui n'attend rien de nous et pour laquelle l'Église est plus souvent associée à la pédophilie, malheureusement. Alors comment aller ? Comment aller ? Je vous avoue que je ne suis pas un maître dans le domaine, mais je vous propose de nous appuyer sur l'exemple de Jésus et des apôtres Pierre et Paul. Premièrement, si nous voulons que nos contemporains découvrent Christ, allons à leur rencontre là où ils sont, au travail, dans le sport, la musique, les associations, etc. Comme Jésus avec Matthieu le Pélagier, qu'il est allé voir, la Samaritaine, ou Zachée, ou encore les quatre disciples, premiers disciples qu'il a appelés. On peut penser aussi à Pierre et Paul dans le livre des Actes, qui sont allés vers ces peuples, dans ces régions inconnues pour eux peut-être. Voilà, allez. Ce n'est pas la chose la plus facile. Alors j'ai compris que hier, à cette évaluation, que vous rayonnez déjà dans votre ville, et je m'en réjouis, vous rayonnez personnellement dans votre ville à travers votre travail, à travers ce que vous faites. Eh bien, je m'en réjouis. Et continuez surtout. Deuxièmement, comme Jésus, gagnons leur confiance en prenant le temps d'établir des relations amicales avec eux. Comme Christ avec la femme adultère, l'Église ne doit pas se contenter de poser des jugements moraux, ce que nous faisons souvent malheureusement. L'Église se doit de rester solidaire de ce monde avec ses souffrances, qui sont autant de signes de la prolifération du péché et de ses conséquences. Comme Jésus, restons humblement à leur écoute, à l'écoute de leurs préoccupations. Manifestons de l'empathie avec ceux qui souffrent. Agissons modestement en fonction de nos capacités en conséquence. Venez tel que vous êtes, on avait un chant qui disait ça aussi. Venez tel que vous êtes est la devise de My Gospel Church, une église en forte croissance, une église de perspective de notre union, en forte croissance, située à Paris. Et certains qui rejoignent cette église sont bien chargés, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est à Paris. Je ne vous fais pas de dessin. Eh bien, c'est une église, ben les gens, les pêcheurs, vont à l'église. Et Matthieu Koumarianos dit, moi je suis dans une église de pêcheurs. Sommes-nous prêts à accueillir des pêcheurs? Allons-nous soigner ici? Alors, nous sommes tous pêcheurs, mais vous voyez ce que je veux dire quand je parle de Paris. Je ne fais pas de dessin. Troisièmement, comme le dit Pierre, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Préparons-nous donc à expliquer clairement ce en quoi nous croyons en quelques mots, quelques phrases, et à défendre l'espérance qui est en nous. Voilà. Il existe aussi des guides pour préparer un témoignage, et je peux vous en fournir si vous le souhaitez. Voilà un beau défi pour l'Église de l'Enseignement. Dans vos groupes de maison, dans vos groupes de quartier, ou peut-être même dans l'Église, comment, en quelques phrases, pourrions-nous expliquer ce en quoi nous croyons ? Voilà, ça fait tomber. Bon, et la même chose pour le témoignage. Comment vous pourriez préparer un témoignage si l'occasion se présente de le donner? Et puis vous pouvez aussi le mettre sur votre beau site web. Je vous félicite pour votre site web. Vous pouvez le mettre là pour que d'autres comprennent, puissent entendre. Alors, on peut changer les noms, on n'est pas obligé de mettre les noms exacts. On n'est pas obligé même de donner de noms. Quatrièmement, eh bien, prier pour les non-croyants, c'est une évidence. Mais pas seulement. Prenons aussi l'exemple de prière que Paul propose dans Éphésiens 6, verset 19. « Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je révèle avec assurance le projet de salut qu'est la bonne nouvelle. » Oui, parce que c'est un combat spirituel, tout simplement. C'est un combat spirituel. Cinquièmement, eh bien, c'est quelque chose que chacun peut faire, mais ce n'est pas forcément facile. En agissant comme de vrais disciples de Christ, nous devenons le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que nous dit Jésus dans la bouche de Jean. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et ça change. Le monde vous regarde, le monde nous regarde Ils voient bien qu'on est différent et ils nous interpellent. Mais ne vous attendez pas ou ne soyez pas déçus si certains ne reçoivent pas favorablement l'Évangile. Mais certains, sous l'action de l'Esprit-Saint, répondront par la repentance et la foi. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pas nous. Nous, on annonce la parole d'une façon ou d'une autre, mais c'est le Saint-Esprit. Nous arrosons, mais c'est le Saint-Esprit qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. Alors, parfois, on est déçu parce qu'on est un peu renvoyé dans nos buts. Ça vous est jamais arrivé. On est renvoyé dans nos buts. On est rejeté. C'est jamais agréable de se sentir rejeté. Mais voilà, ils ont entendu. Et c'est le Saint-Esprit qui utilise ces paroles. Il les utilisera peut-être beaucoup plus tard. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, je radote un peu. Donc, je vais essayer de résumer ce deuxième point. L'Église a pour vocation de faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut qu'elle fasse connaître Christ et son Évangile à ses contemporains. Comment ? En allant vers eux, là où ils se trouvent, en gagnant leur confiance, en se préparant à expliquer ce en quoi nous croyons, et ça c'est important de s'y préparer, en priant pour le salut des non-croyants, mais aussi pour que nous fassions connaître Christ avec assurance, et puis en imitant le Maître. En imitant le Maître, ça, c'est un témoignage, c'est une façon d'aller vers les autres. Aller, il faut bien le dire quand même, c'est un défi pour nous tous. Passons au deuxième point, baptiser. Alors, baptiser. Le baptême est d'abord un acte d'obéissance à l'ordre donné par Jésus, comme on l'a vu au verset 19, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors on sait tous, je ne vais pas m'étendre sur la symbolique, l'acte physique du baptême par immersion symbolise l'abandon de l'ancien mode de vie du baptisé et son engagement, devant témoin, principe, à devenir un disciple de Jésus-Christ. Le baptisé est donc préalablement passé par la repentance et la foi, c'est ce qu'on appelle dans notre milieu la conversion. Mais je voulais ce matin insister sur le fait que le baptême introduit le nouveau croyant dans la communauté des disciples du Christ. Une famille de frères et sœurs en Christ, dans laquelle le croyant va pouvoir y vivre la communion fraternelle. Communion fraternelle. L'expression communion fraternelle fixe à la fois la caractéristique essentielle, communion, et les limites fraternelles. Elle s'étend aussi loin que le cercle des enfants de Dieu, par-delà toutes les barrières confessionnelles, dénominationnelles, nationales et raciales, mais pas au-delà. Mais d'accord, c'est une communauté de frères et sœurs en Christ. Le mot communion fait penser à une profonde unité de pensée, de sentiment et d'intention. La communion fraternelle se vit en pratique dans l'Église locale. Pas seulement, mais surtout dans l'Église locale. Elle constitue un des éléments essentiels de la vie de l'Église, comme ce fut le cas pour l'Église primitive. C'est dans ce cadre que la solidarité, l'amour mutuel et inconditionnel s'expriment. C'est aussi dans ce cadre, et c'est, j'insiste un petit peu là-dessus, que le disciple grandit spirituellement. J'ai parfois entendu des gens, je n'ai pas besoin de l'Église pour grandir spirituellement. Oui, il y a des exceptions, mais mes observations montrent que quand on ne fréquente pas l'Église, pour revenir à une expression qui a été utilisée tout à l'heure, on a tendance assez rapidement à retourner en Égypte. Donc, l'importance de l'Église locale et de la communion fraternelle au sein de son Église locale. Donc, encore une fois, je radote. Pour résumer ce point, l'Église a aussi pour vocation de baptiser les non-croyants. Comme on l'a dit, le baptême est d'abord un acte d'obéissance. Par le baptême, le croyant prend l'engagement de devenir un disciple de Jésus. C'est ce que je veux aussi souligner. Par le baptême, le baptisé prend l'engagement de devenir un disciple de Jésus. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas « oui, bon, je vais me faire baptiser ». Non, c'est un engagement qu'on prend devant témoin. Mais le baptême introduit aussi le nouveau baptisé dans une communauté de croyants pour y vivre la communion fraternelle au sein d'une église locale le plus souvent. C'est dans ce cadre communautaire que le croyant peut devenir un disciple de Christ. Vous êtes d'accord ? Passons au dernier point. enseigner. Aussi incroyable que cela paraisse, les onze disciples de Jésus, hommes ordinaires à la fois balbutiantes, comme vous et moi, vont propager l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Pourquoi ont-ils accompli un tel exploit? Parce qu'ils ont été enseignés à obéir aux prescriptions de Jésus. Parce qu'ils ont été accompagnés dans leur croissance spirituelle par Jésus. Parce qu'ils ont été formés à servir pour Jésus. En deux mots, à servir. Pour Jésus. Enfin, parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit, promis par Jésus. Alors l'Église existe pour faire des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut aller, bien sûr, baptiser, c'est le commandement de Jésus, mais il faut aussi enseigner pour qu'on puisse devenir un disciple. Il faut être enseigné. L'Église doit donc pour vocation d'enseigner aux membres disciples, ce que j'appelle les membres disciples, à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Depuis les apôtres, le contexte a changé, puisque de nos jours, les enseignements de Jésus sont disponibles pour l'essentiel par écrit dans le Nouveau Testament. Néanmoins, ce que dit le verset 20, hein, « Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, reste immuable, quels que soient les moyens qui existent. » La prédication, vous connaissez, l'étude biblique, les groupes de maison, les groupes de prière, etc., permettent l'acquisition des connaissances minimales, bibliques de base. L'Église locale peut aujourd'hui même recourir à de nombreuses méthodes. Je peux vous en donner quelques-unes, que ce soit en face à face ou en groupe. Il y a des méthodes, on travaille en groupe, il y a des méthodes qu'on travaille en binôme. Il y a par exemple les plans de lecture de la Bible, les cours alpha que vous connaissez puisque vous les avez mis en œuvre, qui sont à la fois nécessaires, intéressants pour les non-croyants, mais qui permettent aux chrétiens de réviser les bases. Donc c'est utile pour tous, les cours alpha. Il y a les groupes de croissance qui marchent bien maintenant. Il y a la grande histoire de la Bible qui, eux aussi, sont destinés à la fois aux non-croyants et puis aussi aux croyants, aux jeunes croyants. La grande histoire de la Bible, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc un certain nombre d'idées. Ça permet de parcourir rapidement la Bible, de faire découvrir ce qu'est la Bible à des non-croyants ou à des jeunes croyants, pour montrer à travers certains passages le plan de Dieu prévu de toute éternité. Donc ça commence évidemment de la Genèse, et ça se termine à la croix et à la résurrection. Par là, en choisissant les textes, on fait parcourir, on fait comprendre aux non-croyants et aux croyants le plan éternel, immuable de Dieu. Voilà. Donc ça, il y a aussi les sept signes de Jean, je ne sais pas si vous connaissez les sept signes de Jean non plus, on l'a sur le smartphone, quand on est un étudiant, c'est bien qu'on est dans le transport en commun, on peut regarder sur son smartphone les sept signes de Jean. Ça nous permet de progresser dans l'évangile de Jean et de comprendre ce qu'est un disciple. Bon, il y a plein de méthodes, si vous souhaitez, je peux vous donner une liste. Aujourd'hui, c'est énorme le nombre de méthodes qu'on a. Mais afin donc ces méthodes sont très bonnes pour éviter de réinventer la roue, souvent en moins bien, il faut le dire. Mais il me semble qu'identifier, proposer et recommander des outils pertinent et adapté aux membres disciples, incombe quand même aux responsables. Parce que sur Internet, responsable de l'Église locale, parce que sur Internet, il y a quand même aussi à boire et à manger. Donc il y a un discernement, il faut faire preuve de discernement aussi sur tous ces moyens. Ensuite, nous pouvons être aussi reconnaissants pour les instituts publics, les deux facultés de théologie évangélique qui fournissent un enseignement complet permettant l'approfondissement des connaissances bibliques jusqu'au niveau Master 2, vous voyez, un peu, et même après on peut faire des thèses. Enfin, encore une fois, un moyen pour tout chrétien d'enseigner les plus jeunes dans la foi, c'est de devenir un exemple. Moi j'ai grandi, je vous avoue, dans ma vie chrétienne, j'avais des personnes qui me servaient d'exemple dans le couple. Ah, ce couple, j'aimerais bien. C'était des personnes âgées qui se prenaient encore par la main. Je disais à ma femme, ça serait bien si quand on sera vieux, on sera comme eux, toi. Voilà, ça c'est, donc être un exemple, c'est très important pour aider, pour enseigner finalement. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Enseigner, c'est aussi accompagner les disciples dans leur croissance spirituelle. C'est la prochaine. La prochaine, voilà. La vie chrétienne, et vous le savez tous, s'apparente à un chemin composé de sommets extraordinaires mais aussi de déserts arides, on a entendu dans les prières tout à l'heure, de paysages idylliques, oh merci Seigneur, oh, c'était super, mais parfois sombres. Comme la chenille ne devient pas instantanément, un papillon, le croyant a besoin de temps. Et je vais le répéter 3 fois. Le croyant a besoin de temps. Le croyant a besoin de temps pour mieux connaître Christ, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour développer et fortifier sa confiance en Dieu, sa foi, et ressembler à Jésus finalement. D'ailleurs, Jésus a passé 3 ans au contact de ses disciples avant de leur confier cette grande mission décrite dans notre texte du jour. Par conséquent, enseigner, c'est aussi accompagner le disciple dans sa croissance spirituelle en l'écoutant, en répondant à ses questions. On apprend énormément par les questions-réponses, et vous aviez fait une boîte à questions, je crois, ici. Vous voyez comment ça marche bien, ces idées. Donc, en répondant à ses questions, en l'aidant à surmonter ses doutes et à obéir, bien sûr, en l'aidant à obéir. Alors, si j'ai utilisé le verbe accompagner, c'est pour au moins 3 raisons. Premièrement, le disciple reste à l'initiative. C'est au disciple de prendre l'initiative. Il est responsable de sa croissance. Donc, c'est lui le demandeur. Ce n'est pas le pasteur responsable de sa croissance. Bien sûr, il a un impact, mais c'est d'abord au disciple. C'est à lui de demander s'il a besoin. Deuxièmement, il ne s'agit pas pour le ou les accompagnants d'imposer leur théologie, mais d'accompagner le disciple à découvrir les vérités bibliques pour lui, pour sa vie. Troisièmement, je me répète encore, n'oublions jamais que c'est le Saint-Esprit qui fait grandir, alors ne négligeons pas le rôle de la prière dans l'accompagnement. C'est même fondamental, je vais vous le dire, honnêtement. Encore une fois, c'est nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Ensuite, enseigner, c'est le prochain. Enseigner, c'est aussi former des disciples à servir. Ça, c'est la conclusion. Mais c'est bon. Si l'Église enseigne le disciple, ce n'est pas uniquement pour son accomplissement personnel. Beaucoup de chrétiens, on se sont dit, bah oui, moi avec Dieu, et c'est vrai, c'est une réalité aussi. Avec Dieu, nous réalisons notre humanité. C'est dans la communion avec Dieu que nous réalisons pleinement notre humanité. C'est vrai qu'il y a aussi un accomplissement personnel dans notre relation avec Dieu. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes appelés à servir. À servir. Donc, voilà, nous sommes tous appelés à servir à notre niveau. Alors, j'ai compris qu'ici, il y avait un panneau à refaire, il y avait peut-être un service de vidéo audio. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mes souvenirs sont bons d'hier. Voilà, un petit peu de travaux à faire. Voilà, on peut servir de tout. Tout le monde n'est pas appelé à devenir prédicateur, et heureusement, on serait rassasié de prédication. Heureusement, il y a besoin de servir dans tous les domaines. Enseigner donc implique aussi de former des disciples pour le service. Je vous rappelle que Jésus a envoyé ses disciples par 2, alors qu'ils n'avaient rien compris. Je ne sais pas si vous vous rappelez que les disciples, Jésus leur a expliqué 3 fois qu'il allait mourir sur la croix, mais rien compris. Mais ils n'avaient encore pas compris que Jésus les avait déjà envoyés annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les démons. Alors, ils ont eu un petit échec, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Mais voilà, ils y sont allés. Jésus les a envoyés, les a préparés pour le service, même s'il y a eu un petit couac. Voilà, l'Église a pour vocation aussi de former pour le service. Et ça, voilà, on apprend ses échecs, on peut et accepter aussi les échecs. Donc, j'en reviens aux responsables. Donc, le conseil d'Église ou le conseil pastoral se doit de reconnaître aussi les dons reçus par les membres disciples, afin qu'ils puissent les développer, les mettre au service de l'Église et de leur prochain. Alors, ce n'était certainement pas dans cette église, mais il y a des églises que j'ai visitées et dans lesquelles j'ai même vécu, où les responsables, ils voient parfois des rivaux. Ils voient un gars qui a un super don de louange, mais bon, celui qui est en place à la louange, il se dit « Oh là là, il m'a piqué ma place. » Je vous assure, c'est fréquent. Il ne faut pas y voir là, des rivaux, mais au contraire, se réjouir. Se réjouir ce que Dieu nous a donné, des musiciens, des directeurs de louange, des conducteurs de louange. Se réjouir de tous les dons que Dieu nous a donnés, les encourager et permettre leur développement. Donc, pour conclure ce point, nous venons voir que l'Église a aussi pour vocation d'enseigner les membres disciples à quoi ? À obéir à tout ce que Jésus a prescrit, et il faut le dire qu'il nous a prescrit quand même pas mal de choses. en utilisant tous les moyens pertinents d'enseignement disponibles aujourd'hui, en montrant l'exemple, toujours l'exemple, c'est un point important, en accompagnant le disciple dans sa croissance spirituelle, en le formant pour le service et en reconnaissant ses dons. Et j'ai pu voir hier que c'est quelque chose que vous faites a priori bien, sur ce que j'ai entendu. Donc, je vous propose maintenant qu'on récapitule un petit peu tout ça, pour qu'on puisse partir avec les idées claires. Mais jusque-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai oublié deux versets essentiels de notre texte. Tout d'abord le verset 18. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il introduit cet ordre de mission. Le second verset, le verset 20, termine cet ordre de mission. Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si la tâche de faire des disciples peut nous sembler insurmontable, elle l'était aussi pour les disciples de Jésus. Ces deux versets nous encouragent. Jésus a autorité sur toute chose, sur les êtres célestes, sur les êtres humains, sur le monde matériel, sur les circonstances, la science, la technologie, le numérique et la Covid, évidemment. Hein, puisque c'est malheureusement encore d'actualité. Mais Jésus a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Jésus a donc l'autorité et les moyens pour exécuter son plan de salut dans le monde entier. Plus encore, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Parfois, on a ce ressentiment qu'on est livré à nous-mêmes. Hein, je parle. Moi, ça m'arrive dans un moment de découragement. Je ne sais pas vous, moi, ça m'arrive. Mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, puisque par le Saint-Esprit, Jésus reste présent au monde et y agit. Il est avec nous chaque jour. Nous pouvons donc nous engager avec confiance dans la grande mission qu'il nous confie, car, in fine, c'est le Saint-Esprit qui bâtit son Église. Ne l'oublions jamais. Alors, nous avons vu aussi que l'Église existe pour faire des disciples. Elle existe pour autre chose, mais en particulier pour faire des disciples, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde vraiment dans notre tête ce matin. Alors, un disciple, on l'a vu, c'est aussi un croyant ordinaire, mais qui essaie d'imiter son maître, qui veut ressembler à son maître, Jésus. On a vu que en voulant faire des disciples, l'Église a aussi pour vocation de faire découvrir le Christ à son évangile et à ses contemporains, en allant vers eux, là où ils se trouvent, en gagnant leur confiance, en se préparant à expliquer ce en quoi nous croyons, en priant pour le salut des non-croyants, mais aussi pour faire connaître le Christ avec autorité, avec assurance. Et enfin, en imitant le Maître. La dernière, je pense. On a vu aussi que Jésus nous demande, c'est un petit peu mystérieux, mais on le comprend, hein, de baptiser les nouveaux croyants. Le baptême, on l'a vu, c'est un acte d'obéissance à cette demande de Jésus pour devenir un disciple. Mais aussi, on a vu que le baptême introduit le nouveau baptisé dans une communauté de croyants. Et c'est très important. L'église locale, où il peut grandir spirituellement pour devenir à son tour un disciple de Christ. Enfin, l'Église a aussi pour vocation d'enseigner les membres disciples à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Bien, en utilisant tous les moyens disponibles, pertinents, je dis bien pertinents, hein, aujourd'hui. Ils sont nombreux, en plus, si vous parlez l'anglais, alors là, c'est énorme ce que vous avez à votre disposition aujourd'hui. En montrant l'exemple, toujours, hein, montrer l'exemple, c'est toujours une bonne façon d'enseigner. En accompagnant les nouveaux croyants dans leur, et les autres d'ailleurs, les croyants en général, en accompagnant les croyants dans leur croissance spirituelle, en les formant pour le service et en reconnaissant leurs dons, les dons que Dieu leur a donnés. Amen. Amen. Je termine par la prière et je